Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est cette semaine qu'on prend de l'avance sur la Journée internationale des droits des femmes. On rencontre des femmes qui font avancer les droits de tous et toutes. D'abord, un organisme incontournable, le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, qui nous présente quelques luttes actuelles avec Selma Coudry, qui est aussi avec nous au nom de l'organisme. À la station, c'est le retour tant attendu de Maxime Despomerleau qui nous prépare cette semaine la première édition de Sortir, le magazine culturel de la station. Yolande Lemaître, directrice artistique et fondatrice de la troupe À tout cœur, vient aussi faire un tour chez nous et c'est aussi le tour mensuel de notre chroniqueur Monde du travail, Franck Bouchard. Dans quelques instants, Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec, vient nous parler de ce que ça prendrait collectivement pour que les personnes blessées médulaires et les autres personnes handicapées soient bien. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Saviez-vous que si vous avez de la difficulté à prendre votre bain, si vous ne pouvez pas pelleter pour sortir de chez vous parce que vous avez une déficience liée à l'agilité, ou encore si vous avez besoin de matériel pour lire notre site web parce que vous avez une basse vision, c'est pas à vous, individuellement, de payer. Bon, ceci étant dit, je suis persuadé que beaucoup de gens, d'auditeurs, d'auditrices, sont en ce moment en train de faire plein de calculs, hein? Je vous imagine à la maison. Mais bon, ce principe, comme beaucoup d'autres, ce principe qu'on appelle la compensation liée aux déficiences, est très important dans les grandes revendications de Mémo Québec. Et c'est pour ça qu'on en parle avec Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci, Walter, d'être avec nous.
Merci, Benoît.
Donc, vous avez lancé en février votre cahier de revendications pour les personnes blessées médulaires, mais aussi pour les autres personnes handicapées. Pourquoi vous l'avez fait à ce moment-ci?
Bien, en fait, d'une part, nous nous rendons compte que, d'une part, on ne peut pas nier l'avancement des dossiers touchant les personnes avec des limitations au cours des dernières décennies. Mm-hmm. Mais aussi, on constate qu'il reste encore beaucoup de chemins à parcourir pour atteindre les objectifs de participation citoyenne et d'inclusion sociale pour nos collectivités. De plus, ce qui est important à dire, depuis quelques années, nous assistons à un effritement progressif d'une multitude de mesures sociales favorisant l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes ayant des limitations. Alors, dans ce contexte, et compte tenu de la demande qu'il y a de tous les dossiers sur lesquels on doit s'impliquer, Mémo Québec a jugé important de créer un cahier de revendications qui expose de manière formelle sa lecture des enjeux, les revendications qui sont associées, de même que les engagements que nous, comme organisme, prend finalement face à ces dossiers-là.
Ce que vous êtes prête à défendre, ce que vous défendez au fond. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous poser la question, tout simplement pour les gens qui nous écoutent. Mémo Québec, qu'est-ce que c'est, en quelques mots?
Mémo Québec a pour mission de favoriser l'autonomie des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, mais aussi plus globalement l'autonomie de toutes les Québécoises et Québécoises vivant avec un handicap.
OK. Voilà. Donc le mot d'ordre, c'est autonomie.
Autonomie, exactement. Inclusion sociale aussi.
Inclusion sociale.
Oui. Alors voilà. Alors notre cahier de revendications, ce qui est intéressant, c'est que on a divisé notre cahier en trois grandes sections. La première, ce sont les dossiers qui touchent particulièrement les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. C'est notre mission première. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est intéressant. Et là-dessus, on va trouver donc des questions qui sont propres. Donc les blessés médulaires vont être en mesure de pouvoir s'y retrouver. Par exemple, toute la question de centre d'expertise pour les blessés médulaires, la question de l'intégration sociale également, et d'autres dossiers de cette nature-là. Ensuite, on a des dossiers...
Juste avant, pour qu'on comprenne bien, c'est votre première mission de défendre les droits des personnes blessées médulaires, mais vous avez décidé de ratisser plus large quand même. Vous adressez vraiment à toutes les personnes qui auraient des déficiences au fond au Québec, puis vous essayez de pointer les besoins, les revendications. C'est ce qu'on peut comprendre?
Oui, tout à fait, exactement. Alors ça, c'est comme la première partie. La deuxième partie, comme ça touche donc des questions qui touchent les blessés médulaires, mais aussi quelques limitations ou quelques personnes en particulier, on pourrait dire. Et la troisième, ben, ça touche de manière plus globale, donc l'ensemble des personnes blessées, des personnes ayant des limitations. Alors, okay. C'est comme ça qu'on va se trouver avec des dossiers aussi divers dans lesquels on prend position, comme par exemple l'accès aux soins de santé pour les personnes ayant une lésion médullaire, mais également, on va parler d'adaptation des véhicules, toutes les directives des agents payeurs, l'intégration sociale, on va parler aussi d'accessibilité dans le sens large, d'intégration en emploi, transport adapté et accessible. Au total, il y a 17 questions, dossiers sur lesquels Mémo Québec prend position, présente ses revendications à la société et au gouvernement.
C'est très clair et ça se décline sur presque 60 pages. Vous avez évidemment des revendications classiques, là, vous en nommez quelques-unes qui concernent le transport adapté, le soutien à domicile, l'accès aux cliniques, mais ce que vous défendez particulièrement aussi, c'est les centres de réadaptation, les services aux personnes blessées médulaires, puis de l'autre côté, l'emploi, hein, parce qu'il y a des acteurs, mais il n'y en a pas tant que ça, là. Donc, c'est ce qui vous distingue. Oh, oui, c'est vrai, puis l'adaptation des véhicules. Il y a très peu de groupes quand même qui parlent de cette dernière revendication-là, mais parmi tout ça, c'est quoi qui est le plus urgent, Walter Zelaya?
Mais je vous dirais qu'on ne peut pas déterminer quel est le il y a plusieurs urgences, mettons, on est confronté à plusieurs urgences, mais derrière ça, nous, tous les dossiers qui concernent l'inclusion sociale, l'autonomie des personnes, pour nous, sont importants. Toute la question de nous assurer que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles ne devraient pas avoir à assumer les coûts additionnels liés à leurs limitations, et également les respect de l'individualité des personnes par rapport à ses besoins des personnes.
Ou leur intégrité même morale.
De l'accessibilité universelle.
OK. Et l'accessibilité universelle. Alors ça, c'est nouveau par ailleurs, puisque Mémo Québec n'a pas eu tendance à être un défenseur particulièrement... pas un défenseur de l'accessibilité universelle, là, au sens où que tous les groupes pourraient avoir accès, ou encore qu'on pointe pas les personnes handicapées spécifiquement, mais les besoins là, de l'ensemble de la population. Ça fait longtemps que vous avez pris position pour l'accessibilité universelle?
Disons qu'on a toujours pris la question, c'est qu'il y a déjà plusieurs organismes qui travaillent sur cette question-là. Mm-hmm. On a toujours appuyé la question de l'accessibilité universelle. Des fois, nous autres, ce qu'on a toujours dit, c'est comme faisons attention aussi parce qu'il y a aussi d'autres types d'accessibilité qui, même s'il n'est pas universel, sont aussi importants en attendant l'accessibilité universelle. Mais justement, notre cahier de revendications, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient clarifier la position de Mémo Québec en regard de tout le monde. Ça vient mettre sur la place publique comment nous, on se positionne, quels sont les dossiers, les valeurs qu'on défend.
OK, on sent bien ce que vous voulez défendre. D'ailleurs, c'est bien étayé. Là. J'invite les gens à se rendre sur votre site web dont on donnera l'adresse plus tard. Mais enfin, on peut le dire maintenant, moilépinière.com, tout simplement, on peut aller retrouver ça. Mais j'aurais envie de vous parler d'un dossier dont vous ne parlez pas nécessairement dans ce... cahier de revendications, mais auquel vous êtes très associé, la Régie des rentes du Québec. J'aimerais ça en quelques mots, là, que vous nous rappelez. C'est quoi l'injustice particulière que les personnes handicapées vivent à l'égard des rentes au Québec?
Oui, disons que je juste clarifier, Benoît, pour votre information, oui, la question des rentes se trouve dans notre cahier, se trouve à la page 43.
OK, merci.
Alors, la question a quelques minutes. Nous, ce qu'on demande, c'est que les bénéficiaires des rentes d'invalidité ne doivent pas être soumis à une pénalité qui découle d'une modification qui a été faite en 97. Et donc, actuellement, la rente, ceux qui reçoivent la rente est réduite. Ils reçoivent une pénalité qui est présentement est de 30% qui pourrait aller à partir de 2018 à 36%, ce qui est complètement inacceptable, ce qui vient appauvrir les personnes. Et donc, nos demandes sont toujours là et nous continuons à travailler sur ces dossiers-là.
Et que
nous le rappelons,
c'est
un dossier qui touche l'ensemble, ça peut potentiellement toucher l'ensemble des personnes ayant des limitations.
Exactement, mais vous avez eu quand même beaucoup d'appui pour cette campagne-là, puisqu'on en parlait assez peu.
Exactement. On a été content quand même dernièrement que le gouvernement a tenu des consultations. Il faut rappeler que le gouvernement a tenu des consultations et des consultations qui ont été faites en toute vitesse. Mm-hmm. Beaucoup d'organismes n'ont pas été invités. Et malgré cela, nous avons réussi à mobiliser près de 90 personnes et organismes qui ont présenté des mémoires avec notre soutien et dans lesquels finalement, d'une manière clair, il se positionne finalement contre la pénalité qui est actuellement en vigueur pour les personnes qui sont sous les rentes d'invalidité.
Donc, c'est une autre revendication que les gens qui nous écoutent peuvent appuyer. Avant de se quitter, je remarque que dans vos moyens, pour défendre vos revendications, vous évoquez souvent la représentation auprès des instances, la communication des besoins. Est-ce que votre organisation envisage des moyens, disons, plus directs ou même judiciaires pour avoir de gain de cause?
Oui, c'est quelque chose que nous, on n'exclut pas pour le moment. Mm-hmm. Ce sont des moyens, du moment que ce sont des moyens démocratiques et qui respectent donc les règles, nous sommes prêts à les défendre. Mais comme vous le savez, Benoît, nous autres, on vit par et pour nos membres. Mm-hmm. Alors, ce sont les membres qui décident les moyens que nous, on prend, et ce, à travers les différentes instances que nous avons, donc un comité consultatif élargi, mm-hmm. donc quinzaine de personnes, notre conseil d'administration, l'équipe de travail et tous les conseillers et conseillères bénévoles aussi qui en font partie de notre... et ensemble, finalement, on prend les orientations et les décisions qui correspondent finalement aux valeurs puis aux mm-hmm. désirs pour faire changer les choses.
Excellent. Il faut rappeler, c'est l'occasion que vous me donnez de rappeler que ce cahier de revendications a été développé notamment avec votre comité permanent qui est composé de personnes souvent blessées médulaires ou en situation de handicap. Donc, vous continuez de consulter et on peut lire tout ça sur www.moelleepinière.com. Donc, je vais appeler moelleepinière.com. Je rivalise avec la synthèse vocale, messieurs, dames.
Ah ouais. Ça a l'air. On se va directement aux publications. Et dans oui. les publications, on trouve l'onglet cahier de revendications. Et voilà, il est accessible.
Excellent. Merci infiniment, Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec.
Merci, Benoît.
À bientôt.
À bientôt. Au plaisir.
Au plaisir. Les consultations pour un Canada accessible se terminent le 28 février 2017 et parmi les priorités énoncées par les Canadiens et Canadiennes, le leadership des personnes en situation de handicap, l'emploi figurent certainement en tête de liste. Donc, on revient sur les enjeux avec notre chroniqueur Monde du Travail, Franck Bouchard. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous de nouveau. L'emploi sera certainement à l'honneur, Franck Bouchard. Des déclarations ont été faites à cet égard. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien, effectivement, la ministre responsable de l'élaboration de cette loi-là au fédéral, Mme Carla Caltrou, au début du mois de février, donc à la fin des consultations, des différentes séances de consultation qui avaient lieu, a effectivement mis de l'avant que dans ces séances de consultation-là, la question de l'emploi était revenue de façon récurrente. Donc, mm-hmm. c'est certain. Et de ce contexte-là, évidemment, la future loi fera une place très importante par rapport justement à l'accès à l'emploi pour les personnes en situation d'handicap. Donc, dans ces affirmations, la ministre notamment revenait sur le fait qu'il y avait un taux d'emploi quand même assez problématique. Donc, si on regarde, par exemple, les personnes en situation de handicap, on parle, selon les statistiques, on voit qu'on est autour de près de 50% de taux d'emploi, comparativement à près de 80% pour des personnes sans incapacité. Donc, il y a un rattrapage à faire, un rattrapage qui est là depuis déjà un certain nombre d'années, mais ça a été réitéré dans le cadre des consultations. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, la ministre donc souhaite mettre l'emphase beaucoup sur l'accès à l'emploi, particulièrement du côté des entreprises, donc ce serait davantage de juridiction fédérale.
Ah oui, mais justement, vous nous mettez la table. C'est quoi ces entreprises-là ou ces secteurs d'emploi-là qui sont sous la juridiction du fédéral?
Alors, on parle surtout d'entreprises qui sont dans différents secteurs, les secteurs des banques, mm-hmm. le secteur des communications, par exemple, tout ce qui concerne, les stations de télévision, Bell, Vidéotron, etc., donc de ces types d'entreprises-là. Secteur des transports, notamment, Via Rail, tout le transport ferroviaire, le transport par autobus, interprovincial, de camions, etc. Et tout aussi le secteur fédéral comme tel, dans le sens où toute la fonction publique fédérale aussi est assujettie à ça. Donc, c'est mm-hmm. certain qu'il y a un souhait à ce qu'on fasse davantage d'efforts auprès de ces employeurs-là.
Mais on regarde tous ces secteurs-là, puis il faut le dire, bon, au niveau du gouvernement fédéral, il y a des avancées certaines qui ont lieu. Les banques sont assez bons joueurs, souvent, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Remarquez, pas dans tous les types d'emplois. Hein. Des fois, on leur offre des emplois peut-être à responsabilité restreinte, mais quand même, il y a du travail qui est fait. Dans les communications, ça m'impressionne. Et comment vous pensez que ça va être possible? On parle des télécommunications et des communications médias?
Effectivement, c'est un secteur donc, de juridiction fédérale. Il faut dire que ces secteurs-là ont quand même déjà des obligations déjà depuis plusieurs années avec la loi sur l'équité en matière d'emploi. Déjà depuis à peu près le milieu des années 80, cette loi-là est en place.
Mais ce qu'on constate quand
Mais ce
même?
Qu'on constate, c'est que cette loi-là n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a encore, malgré près de 30 ans peut-être de mise en place de cette loi-là, qu'il y a encore du rattrapage à faire, il y a encore... insuffisance de personnes en situation de handicap qui sont représentées parmi les employés dans ces entreprises-là. Mmh. Effectivement, du côté des télécommunications, c'est quand même assez vaste parce que, bon, si on parle de gens qui peuvent travailler au service à la clientèle, par exemple, chez Vidéotron, qui vont répondre.
C'est assez facile quand même.
Ou du côté des techniciens, du côté... Donc, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir un éventail d'emplois dans ces types d'entreprises-là. Du côté transport, il y a les chauffeurs, bon, c'est peut-être moins évident, mais il y a tous les gens qui s'occupent de l'entretien, de tout ce qui s'occupe de la gestion des déplacements, tout ça. Donc, c'est assez vaste
quand même. Services aux personnes en situation de handicap.
Effectivement, mais il faut faire attention parce que ça concerne quand même les services de transport interprovincial. Donc, c'est sûr que c'est relativement restreint comme secteur dans le sens où la loi ne va pas toucher à ce que touche déjà des lois provinciales. Donc, c'est certain qu'on va
Donc,
pas toucher...
Donc, ça n'aurait pas d'impact sur la STM, par exemple.
Ça n'aurait pas d'impact sur la STM parce qu'elle n'est pas assujettie du côté fédéral. Mm-hmm. Elle est plus assujettie à les lois provinciales dans ce contexte-là aussi au Québec.
Bon. De manière générale, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, là, c'est quoi les autres enjeux? C'est quoi exactement les enjeux du travail qu'il faut travailler, là, sans jeu de mots?
Mais c'est certain que, la ministre l'a bien dit, c'est que l'emploi, pour avoir accès à de l'emploi, c'est pas juste de convaincre des entrepreneurs d'embaucher, il faut aussi mettre en place des mesures qui vont permettre aux personnes de pouvoir avoir accès au travail. Donc, mm-hmm. toute la question du transport, des déplacements, de l'accessibilité des bâtiments, etc., donc des communications aussi, font partie d'éléments qui vont venir favoriser l'embauche des personnes handicapées. Si les immeubles ne sont pas accessibles, si les moyens de communication ne sont pas accessibles, etc., ça vient empêcher ou donner des obstacles supplémentaires. Donc, la loi va travailler sur l'accessibilité au sens plus large. Donc, c'est certain qu'elle va toucher des moyens de communication, va toucher les bâtiments, va toucher les différents éléments comme ça. Donc, de façon... Elle va toucher aussi peut-être plus particulièrement l'emploi sur les pratiques que vont mettre en place les employeurs pour recruter les personnes, les embaucher, les mm-hmm. mettre en place, les garder en emploi, etc., donc en termes d'adaptation.
Et brièvement, là, on se renseigne où pour la suite, puisqu'il y a une loi prévue en 2018? On aimerait bien apprécier tout ça. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour rester informé?
Les prochaines étapes, c'est sur le site web donc, de Canada Accessible, justement, qui sûrement que les éléments en termes de prochaines étapes vont être mis de l'avant. Comme vous disiez au début, c'est aujourd'hui que prennent fin les consultations via Internet. Il y aura, je vais vous croire, un rapport par rapport aux résultats de ces consultations-là et sur les étapes à venir. La ministre parlait que devoir déposer cette loi-là d'ici un an environ de rendre ça accessible. Donc, c'est à surveiller.
OK. Donc, il y a une adresse, c'est ça? On repère Canada Accessible?
Oui, effectivement. On pourra trouver peut-être l'adresse via le
CanalM,
effectivement, pour trouver les informations par rapport à cette loi-là.
Bon, c'est très bien. On va l'indiquer de nouveau sur le site de l'émission. On a essayé de faire le plus possible une tribune pour ces consultations-là de Canada Accessible et l'emploi demeure déterminant. Vous l'avez relevé, vous l'avez rappelé.
C'est un enjeu majeur, effectivement, parce que c'est souvent, veux pas, c'est central dans le sens où les personnes qui vont accéder à de l'emploi, ça détermine aussi toutes sortes de possibilités en termes de développement personnel, en termes de revenus, permet d'avoir un appartement, une voiture, etc. Bon, c'est connu.
Non, c'est ça. La défavorisation économique des personnes en situation de handicap, c'est disons-le, un des grands handicaps.
C'est un... Enfin, effectivement.
Soyons clairs. Okay. Merci beaucoup, Franck Bouchard, d'être venu une fois de plus pour nous parler du monde du travail. Et on repère sur notre site, le site de l'émission, les suites de Canada accessibles.
Merci beaucoup.
Maxime Despomerleau veut sortir. Et c'est un peu avec de Bossa Nova qu'on entre avec elle à l'émission. Faut que vous le sachiez, ça évoque le tout nouveau magazine culturel animé par l'étoile filante Maxime Despomerleau. Bonjour Maxime.
Wow, Benoît, merci de cette belle présentation.
Ben, moi, je vous vois comme l'étoile filante. On est content de vous avoir encore avec nous à Canal M. Enfin, bon, d'abord présentez...
Je suis très heureuse de revenir à Canal M. J'étais pas là l'automne dernier, mais donc je suis très heureuse de faire mon retour aussi.
Bon, content. En plus, pour que les gens comprennent bien là, tout l'enthousiasme qui m'anime, il faut que vous sachiez que je suis venu souvent à l'émission de Maxime Despomerleau il y a pas si longtemps avant de prendre la barre de cette émission, donc c'est un peu émouvant là, pour moi, je dois vous avouer. Bon, c'est ça, qu'est-ce que voulez-vous? Donc, présentez-nous brièvement ce magazine Sortir pendant qu'on y est, puisque ça va sortir vendredi 3 mars.
Oui, c'est ça, la première a lieu vendredi 3 mars. C'est un magazine hebdomadaire, donc tous les vendredis de 11h30 à midi. Et c'est le magazine culturel inclusif de Canal M. Donc, on y va toujours dans notre angle particulier à Canal M. Tout l'aspect d'accessibilité à la culture est évoqué. Donc, non seulement l'accessibilité des lieux, notamment bon pour les personnes qui utilisent des aides à la mobilité, mais aussi toutes les initiatives en collaboration avec le milieu communautaire, le milieu artistique, les initiatives de médiation culturelle qui permettent aux citoyens d'avoir un meilleur accès à la culture et aussi de tout simplement d'y participer et de la se réapproprier.
Est-ce que je me trompe, Maxime, mais ce magazine vous ressemble un peu?
Oui. Oui, parce que dans mon travail, j'ai beaucoup cette optique-là de, comme je dis, de médiation culturelle. Mm-hmm. Je me vois beaucoup comme un pont, en fait, qui aide à créer des liens entre les gens, entre des communautés, qui peut-être autrement ne se rencontreraient pas. Et je pense que c'est un peu l'objectif du magazine aussi, c'est de faire connaître des initiatives intéressantes. Et pour l'anecdote, ça a commencé à germer dans notre esprit l'année dernière, alors que j'animais Ça vaut le détour.
Oui.
Et où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives porteuses qui étaient mises de l'avant dans le secteur culturel et dans le secteur du loisir et du communautaire aussi. Mm-hmm. Alors, on s'est dit qu'il y avait du matériel pour ça et de faire justement un magazine qui était orienté sur la culture inclusive. Donc, c'est un peu comme ça que ça a germé.
Donc, chère Étoile, on va parler deux instants de vous, si vous permettez, parce que vous avez une pratique artistique. C'est aussi à partir de là que vous regardez ces productions culturelles-là, ces événements. Où vous en êtes, Maxime Despomerleau, l'artiste?
Je l'avoue qu'en ce moment, je suis dans une très belle période professionnelle. Donc, il y a des productions, entre autres, avec la compagnie Corpuscule Danse, mm-hmm. pour laquelle je suis interprète, et que je vais certainement recevoir éventuellement à l'émission. donc, il y a des, en ce moment, le projet Quadriptique qui existe. C'est un projet de laboratoire avec quatre chorégraphes ça s'échelonnait sur, ça a commencé en 2016 et jusqu'à mai-juin 2017. Mmh. Et donc, il y a plusieurs chorégraphes qui sont appelés à travailler avec la compagnie dans le but de comprendre la danse intégrée, de l'amener aussi à un public, de la faire connaître à un public. Donc, vraiment, j'invite les gens à suivre le projet sur quadriptyque.com. Et il y a aussi, je travaille en télé, j'ai mes propres projets en cinéma. Je commence à la réalisation de courts-métrages.
Est-ce qu'il y aura un suivi à... Je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce qu'il y aura un suivi à Batwheel? Parce que Batwheel vous a quand même propulsé, vous a montré à nous et a fait comprendre que vous étiez déterminé devant les obstacles à la culture.
Oui, et Batwheel, c'est évidemment, c'est mon bébé, c'est mon alter ego, il faut le dire aussi. Ouais. Oui, j'ai toujours le désir de travailler à développer ce projet-là. Là, en ce moment, disons, dans les prochains mois, ça va beaucoup plus être la phase d'écriture et de pré-production, de recherche. Okay. J'ai réussi à aller chercher une petite bourse au Conseil des arts du Canada.
Ah, ben bravo!
Merci pour, dans un programme qui a été mis en place, un programme pilote pour donner un coup de main aux artistes en situation de handicap, pour avoir accès aux premières bourses. Pour pouvoir se consacrer à quelque chose. C'est ce qui donne la porte d'entrée parfois après pour avoir accès à d'autres types de subventions.
Maxime Despomerleau, c'est excellent. Il faut absolument le publiciser tout ça. Il y a maintenant un petit programme en forme de projet pilote pour les artistes en situation de handicap?
Si on veut, oui, pour le Conseil des arts, j'essaie de retrouver le nom rapidement comme ça en tête, mais c'est une initiative. Mais c'est sûr qu'il faut, comme tous les types d'institutions, qui financent la culture, il faut avoir déjà un bagage, il faut avoir une feuille de route parce qu'il y a quand même des normes et certains facteurs qu'on doit respecter pour soumettre un dossier. Mm-hmm. Moi, j'ai été en mesure de soumettre quelque chose la première fois à l'automne 2015 et donc j'avais reçu ma réponse en 2016 puis j'ai quelques années pour le réaliser.
Ah, mais c'est magnifique. Revenons à sortir maintenant.
Oui.
Cette émission qui sera bientôt diffusée sur Canal M, on le rappelle, les prochaines, là, ça ressemble à quoi?
Je pige un peu de tous les côtés. J'y vais beaucoup avec mes intérêts, évidemment, mais dans le but de faire connaître des choses aux gens. Mais on va parler entre autres de la pièce 9 de Cas Public, qui prend l'affiche à Place des Arts prochainement. C'est une pièce de danse contemporaine et le danseur étoile, si on veut, est un danseur sourd. Mmh. Et c'est inspiré de la 9e symphonie de Beethoven. Donc, il y a déjà des choses là.
Ah, mais il y a des liens chez les sourds, là. Oui.
Oui, et donc, il y a plein de choses à discuter. On va mettre l'emphase sur les productions de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, qui fait de la théâtrodescription. Mm-hmm. Aussi, Spectacle Interface, qui présente des spectacles d'humour annuellement avec des humoristes et traduisent, en fait, à côté, en langue des signes québécoise, le contenu.
Donc c'est tout. C'est foisonnant, ça. Il y a vraiment des belles choses qu'on va entendre avec vous. Donc, je vous laisse la conclusion. Dites-nous quand on vous entend et où.
Ben, on vous entend bien sûr sur Canal M, la radio de Visez-Voix, donc en ligne ou sur la télé numérique. C'est le vendredi en direct de 11h30 à midi et plusieurs fois en reprise. Et aussi, je me permets de dire quelques secondes, on va aussi poster des choses, publier des choses sur Facebook.
OK.
On
le sait maintenant.
Mix,
merci.
Il y a plein de choses à voir, suivez-nous.
Merci, Maxime Despomerleau.
Merci, Benoît.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Le réseau d'action des femmes handicapées du Canada existe depuis plus de 30 ans. Évidemment, les luttes ont évolué, mais encore aujourd'hui, les femmes en situation de handicap vivent la violence, la discrimination, bien plus que d'autres groupes, avouons-le. Et la Fédération des femmes du Québec en 2015 le rappelait aussi que le groupe spécifique des personnes en situation de handicap vivait une violence parfois, avouons-le, très, très importante, démesurée. Enfin, j'évite de me perdre en parlant puisqu'il y a des gens qui en parlent encore mieux que moi. Et c'est pour ça qu'on a avec nous Sylva Couédry, qui est coordonnatrice d'inclusion pour le Québec au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Bonjour, Madame Couédry.
Oui, bonjour, M. Rassette. C'est Selma, avec un M à la fin. M-A.
Oui, Selma. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit?
Pardon. OK. Désolé. Vraiment désolé.
Il n'y a pas de problème.
Écoutez, si vous me permettez, avec vous, on initie quelque chose comme une série sur l'intersectionnalité, je dois vous avouer. Et comme c'est une grosse question, c'est un mot qui fait peut-être peur, même parfois, j'aimerais que vous soyez la première à le définir. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité, Madame Quidry?
Écoutez, je suis très contente que d'entendre quand même qu'il y a un intérêt assez important pour cette nouvelle. Enfin, c'est pas tout nouveau là. C'est un cadre d'analyse en fait que les groupes féministes utilisaient depuis des années. Je pourrais vous dire même avant les années 70 en fait. Hein, mm-hmm. C'est un mouvement qui était au niveau international qui était très présent. Et donc, comme pour l'analyse différenciée selon le sexe aussi, c'était une analyse aussi qui a été développée par des groupes féministes. Mmh. Et donc, l'intersectionnalité, c'est un cadre aussi que les groupes féministes utilisent et les groupes en général de femmes, de services de femmes, utilisent de plus en plus. Au Québec, c'est ouais. assez récent qu'on en parle beaucoup, mais au niveau pan-canadien, ça parle beaucoup. Au niveau international aussi, c'est très présent.
J'ose vous poser la question, oui. Madame Quidry. Est-ce que c'est plus long au Québec à évoluer comme je dirais, théorie ou manière d'aborder les choses?
Ben écoutez, mon observation personnelle, en fait, dans le travail qu'on fait, surtout par rapport aux femmes en situation de handicap, ça a été un peu plus long au niveau, je pourrais vous dire, d'intégrer aussi ces réalités, de comprendre un petit peu ce cadre d'analyse, comment le mettre en place, comment utiliser les connaissances qu'on peut acquérir, parce que c'est quand même, c'est une intersection des oppressions que ouais. peuvent vivre des femmes ou des personnes en général, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les femmes. C'est quand même des intersections. On va trouver une femme qui est d'abord femme, qui peut être aussi femme handicapée, qui peut être femme immigrante, donc qui peut être aussi racisée, qui peut être lesbienne et tout ça. Ce sont toutes des réalités qui se regroupent, qui font d'elle, en tant que femme, qui vit des expériences différentes d'une autre femme qui a peut-être une réalité, une oppression qu'elle pourrait, par exemple, égalité homme-femme, plutôt, nous, on va le considérer beaucoup plus. Et ouais. Égalité au niveau, même dans le mouvement des femmes aussi, l'égalité femme-femme aussi, ouais. Pour nous.
Oui, c'est... certaines femmes qui sont davantage privilégiées, il faut le reconnaître. Je parle pas nécessairement comparativement aux hommes, mais même entre femmes. Oui, vous n'aimez pas que je dise ça?
Oui, oui, moi, en fait, je suis d'accord, plus ou moins. C'est de regarder d'où le travail qu'on fait beaucoup dans le mouvement des femmes, le travail de sensibilisation. Oui, il y a des groupes de femmes qui sont venues aussi nous chercher aussi, oui. en tant que groupe minoritaire d'une certaine façon et encore plus discriminé que d'autres groupes. Mais oui. on travaille ensemble pour faire reconnaître ces réalités. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on comprend de plus en plus qu'il y a des oppressions qui sont présentes et qui se regroupent quelque part, qui font que cette personne-là, cette femme-là, est doublement ou triplement discriminée, ou ouais. Les préjugés existent envers elle par mm-hmm. rapport à des réalités qu'elle peut vivre.
Donc, si on refait le trajet ensemble, pendant mm-hmm. plusieurs années, on a tenté de promouvoir l'analyse différenciée selon les genres, pour s'assurer que effectivement, il n'y avait pas des réalités spécifiques aux femmes. Et mm-hmm. donc, avec l'intersectionnalité, on se rend compte qu'on peut déplier plusieurs situations de discrimination qui s'additionnent ou même se multiplient. Puis, c'est pas toujours facile de les comprendre si on les regarde pas face.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est que même en tant que pour l'analyse différenciée selon le sexe, je ne suis pas une spécialiste dedans, ni même pour... Mais je peux vous dire exactement, c'est pas le fait juste de ventiler selon le sexe. Par exemple, ce qu'on voit au niveau gouvernemental ou au niveau mm-hmm. des programmes, au niveau des organisations, c'est le fait de se dire, d'accord, on a des données ventilées selon le sexe, ça veut dire qu'on a mis en place l'analyse différenciée. Ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond. Ouais. Nous, on voulait chercher des données encore plus importante, différencier selon le sexe, mais les réalités de chaque personne, qu'est-ce qu'on vit, quels sont les obstacles pour chaque personne, comment on arrive à des solutions et comment on met en place des programmes qui répondent aux besoins de chaque groupe. Mais c'est pas pour séparer les personnes
ou
la société.
C'est pour apprécier l'impact dans tous les groupes.
Et puis,
nous permet d'avoir une vision d'ensemble sans oublier personne.
Tout à fait.
Les gens qui nous écoutent nous entendent parler de données, de recherches. En fait, il faut le savoir, l'analyse différenciée selon les genres, c'était une manière d'apprécier les données souvent statistiques, etc. Mais vous, comme groupe de référence, le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, vous avez mené une recherche, une étude sur la violence subie par les femmes en situation de handicap. Est-ce que vous êtes capable de nous présenter aujourd'hui des conclusions de cette étude-là? Qu'est-ce que vous avez appris au fond?
Je peux vous présenter des conclusions de point de vue qualitatif parce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de groupes essayent de travailler. Il y a aussi Action des femmes handicapées à Montréal qui a travaillé de façon montréalaise et un petit peu régionale d'une certaine façon, mais on peut pas, manque de ressources, on peut pas aller plus loin dans nos recherches, on peut pas, c'est vraiment des recherches action maison qui ont été menées avec des moyens assez, donc on peut arriver à des conclusions de façon qualitative et de préciser qu'est-ce qui se passe. Nous, le travail qu'on a fait, par exemple, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Dans la mire, mettre en lumière les femmes en situation de handicap et les femmes sourdes, qui s'est terminé en décembre 2015. Là, ce qu'on a constaté, c'est d'aller vraiment regarder c'est quoi la situation, c'est quoi les violences que vivent les femmes, quels sont les obstacles que vivent ces femmes-là, avec des focus groupes qu'on a menés, certains focus groupes, où des femmes ont accepté de témoigner des réalités qu'elles vivent, les types de violence, les ressources disponibles pour leur venir en aide, qu'est-ce qu'elles voient comme solution, elles aussi, qu'est-ce qu'elles pourraient, c'est-à-dire dans un monde qu'elles aimeraient ou elles aimeraient vivre, qu'est-ce qu'elles verraient comme solution. Donc, de point de vue, les témoignages, ce qu'on a vu, puis il y a eu aussi le mouvement communautaire, on a été aussi chercher des organisations au niveau communautaire, des organisations aussi au niveau de dispensateurs de services aussi, on a essayé de questionner, on a essayé de nous informer par rapport aux ressources. Les violences qui existent sont multiples. C'est pas, on va parler de violences sexuelles que vivent les femmes handicapées, puis souvent on n'en parle pas, c'est très tabou,
c'est très difficile
de sortir les témoignages. Les femmes ont peur de témoigner, d'en parler,
évidemment.
Parce que pourquoi les ressources d'aide n'existent pas en tant que telles.
Je veux pas remettre en question le réseau CALA qui est essentiel, mais par exemple, les centres d'hébergement pour femmes qui vivent la violence ne sont pas tous accessibles. Elles essaient, je sais qu'à Montréal, il y en a un dans l'Ouest qui est accessible aux personnes handicapées, pour les femmes sourdes dans l'Est de Montréal, mais c'est ça. Mais au-delà de ça, les ressources institutionnelles, est-ce qu'il y en a pour les femmes qui vivent la violence?
Écoutez, les ressources sont très, très disparates parce que nous-mêmes, en tant qu'organisme, quand on questionne, on nous demande, je peux vous donner un exemple, on a eu un forum où il y avait un représentant du SPVM, par exemple, où on a fait rencontrer des femmes handicapées avec des regroupements qui agissent, qui donnent des services aux femmes en général, puis il y avait des représentants gouvernementaux aussi, comme d'une certaine façon, parapublic, comme je parlais du SPVM, où on n'était pas capable de nous expliquer le processus d'intervention, par exemple, au cas d'agression sexuelle, au cas de violence conjugale, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, cette femme-là, comment elle est prise en charge, est-ce que vous avez des données claires à nous donner, par exemple, pour le nombre de plaintes, c'est tout ça qui vient nous chercher, qui nous dit d'accord, oui, c'est bien beau, on veut sensibiliser, on veut en parler, les maisons d'hébergement font leur bout de chemin aussi.
Avec des moyens dérisoires, faut le dire.
Des moyens dérisoires qui ne sont pas là. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on travaille, mais le tabou est de plus en plus... levé, ça fait quelques années, je pourrais vous parler peut-être 3-4 ans. Nous, on avait commencé notre travail, on est parti chercher un partenaire tel que AQUIS, qui est l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Donc, où on travaille avec les personnes en déficience intellectuelle, ça a été plus ou moins, au départ, c'était mal reçu. Le partenariat ne voulait pas décoller parce qu'on ne voulait pas parler de violence sexuelle.
Bien, évidemment, c'est exigeant pour les victimes, pour les personnes qui la vivent. Et
ben
puis,
oui.
Comme il faut faire comprendre aux gens là, pourquoi vous êtes obligés de faire du qualitatif, c'est parce qu'en quantitatif, on ne repère pas ça facilement. Vous le dites, les services de police n'ont pas toujours compilé toutes les informations sur les infractions. Et pour entendre le vécu de ces personnes-là, il faut s'asseoir avec elles. Mais évidemment, ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on va faire ensemble dans autour d'une tasse de café là, facilement. Hein? Je comprends tout à fait les défis que vous avez dû relever. Donc, écoutez, il faut quand même dire que le réseau des femmes, d'Action des femmes handicapées existe depuis 30 ans. Donc, vous avez travaillé spécifiquement sur la question de la violence avec les femmes sourdes, les femmes en situation de handicap, les femmes qui ont une déficience intellectuelle. Mais ça serait quoi l'enjeu important sur lequel il faut que vous travailliez en ce moment ou sur lequel vous travaillez en ce moment?
Ben écoutez, moi je peux vous dire que la suite, le projet, par exemple, le problème, vous avez entendu ça, les organismes communautaires débutent toujours des projets qui sont porteurs, qui sont très novateurs, mais s'arrêtent toujours au stade de projet. C'est toujours à refaire et nous, on est tannés de refaire les choses. On veut que ça devienne des programmes continus. On a développé des outils de sensibilisation, des outils très importants qui s'adressent aux femmes, parce que les femmes aussi ont leur part à faire là-dedans, mais des outils aussi qui s'adressent aux dispensateurs de services aussi. Comment
on
le fait, comment accueillir. Donc, des pistes de solutions qui ont été proposées par les femmes, qui ont été proposées par des organismes d'aide qui travaillent avec nous, comme le regroupement les CALAX, que ce soit Akis, que ce soit d'autres organismes qui ont aussi des services, mais qui sont méconnus. Par exemple, les maisons d'hébergement, ils ont des services, mais ils sont méconnus. On ne fait pas assez de sensibilisation. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, on est en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle législation politique et services, parce que c'est là qu'il faudrait aller aussi regarder.
Donc, en fait, vous interpellez les pouvoirs aussi.
Voilà,
il faut qu'elles réagissent. Et, juste en terminant, est-ce que, parce qu'on a malheureusement plus de temps ensemble. J'aurais aimé qu'on ait une autre tribune encore, mais il y aura une loi canadienne pour l'accessibilité. Est-ce que vous attendez dans cette loi-là des mesures pour les femmes?
Ben, tout à fait. On est très, très présent dans ce et au niveau international aussi. On est très présent. Le DAN est vraiment là pour faire rappeler la question du genre qui doit être très, très importante et que les besoins sont peut-être plus importants pour les femmes, on se bat pour les deux, mais les besoins des femmes sont plus, des femmes et des filles sont plus importants. Et aussi au Québec, n'oublions pas les femmes et les filles en région sont laissées pour compte.
Voilà.
À elles-mêmes, les services sont concentrés dans Montréal et ses environs. Vous pouvez aller juste à Laval, vous allez voir la difficulté d'atteindre des services, même pour les femmes en général. Alors les femmes handicapées, n'en parlons pas.
Parfait. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin, mais j'aimerais rediriger les personnes vers votre site web, donc qui est possible, donnez-moi un instant, où on vous rejoint sur le web, Selma Kouidri?
C'est donrafcanada.net, donc ils peuvent, ou taper juste le réseau d'action des femmes handicapées Canada, puis vous allez être sur notre site internet. Mais nous, le travail, on le fait beaucoup pour interpeller les politiques aussi. Au Québec, nous, on fait beaucoup le travail au niveau du Québec pour aussi aller rayonner à travers le Canada, mais l'exemple du Québec est très important pour nous.
Bien, continuez de défendre l'inclusion au Québec, Selma Kouidri, puisque vous êtes coordonnatrice d'inclusion au Québec. Donc, je rappelle, pour les gens qui veulent repérer, c'est le Réseau d'action des femmes handicapées, le RAFH, mais très souvent, on vous lit DAWH, D-A-W-H en anglais, mais les deux, c'est le même combat.
C'est le même combat. On continue.
Merci beaucoup, Selma Kouidri.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Aimons-nous quand même,
Une troupe de théâtre avec des comédiens autistes et aussi qui ont une différence plutôt intellectuelle. C'est un peu comme ça que Yolande Lemaître, directrice artistique et fondatrice de la troupe À tout cœur, intervient pour faire rimer la culture et la différence intellectuelle. Est-ce que ça serait une manière de présenter les choses, Yolande Lemaître?
Oui. Excellent. Bon. J'ai plus rien à dire.
Maintenant, vous avez beaucoup de choses à dire. En fait, je veux même oser quelque chose, parce qu'on approche bientôt, si tu permets, parce qu'on a avec nous aussi Christian. Christian participe aux activités de la troupe À tout cœur.
Je m'excuse, je m'appelle Olivier, pas Christian.
Oui, donc Olivier, donc présente-toi aux gens qui okay. nous écoutent.
Bonjour, moi je m'appelle Olivier Briand, j'ai 35 ans, je fais partie de la troupe À tout cœur depuis presque 4 ans maintenant.
Oui.
Et je suis très heureux d'être avec Yolande Lemaître, mon professeur de théâtre. Nous sommes une très belle gang, on a du fun, voilà.
Ben c'est dit. Quand il y a une gang, il y a du fun, puis en plus, on aime le théâtre. Nous, on est contents à l'émission, en tout cas. Bon, Yolande Lemaître, depuis combien de temps la troupe À tout cœur existe-t-elle?
Depuis 2008 et en 2010, on était un organisme de but non lucratif. Okay. But non lucratif. Mm-hmm. Et en 2012, on est devenu organisme de bienfaisance. Mais moi, j'ai commencé vraiment en 2008. Auparavant, disons que dès 1996, j'étais metteur en scène d'une autre troupe, dont la directrice a pris sa retraite en 2007, et c'est là que j'ai fondé À tout cœur.
Ah ouais.
Et avant ça, moi, je fais du théâtre depuis, pour ma tendre enfance, mais depuis l'âge de 16-17 ans, où j'étais au Conservatoire d'art dramatique en France.
Ah,
voilà.
Bien. Ben, Olivier, si tu permets, on va encore parler un peu de Yolande.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, c'est gentil. Donc, il faut savoir, parce qu'on approche bientôt la journée des, mm-hmm. des droits des femmes, mm-hmm. et j'avais envie de dire que votre approche fait rêver. Beaucoup de gens vous connaissent et vous reconnaissent. Vous promouvez la culture, bien sûr, mais vous le faites d'une manière particulière. C'est quoi la mission, au fond, de ce que vous avez développé, ce que vous avez fait avec la troupe À tout cœur?
Ça peut se résumer en un mot.
Ah
c'est...
oui?
Oui. Quelles que ces personnes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs différences, c'est de leur donner la parole mm-hmm. pour leur permettre par la suite de prendre la parole.
Ah oui.
Et Olivier est là. Là, je lui ai déjà donné la parole dans la troupe. Ouais. Donc, il est supposé prendre la parole, il n'a plus besoin de moi. Et c'est, ça, c'est un début. Donc, d'être capable de parler de leurs droits, d'améliorer leurs conditions de vie quand le besoin s'en fait sentir, que ce soit en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les personnes déficientes, les personnes autistes, les personnes handicapées physiques. Regarde, Marven, lui, est un handicap physique. Donc, c'est toutes les différences. Et là, je voudrais rajouter une autre différence qui, malheureusement, m'attriste quelque peu. Mmh. C'est que le but du spectacle, d'avoir choisi des légendes qui viennent de pays, Haïti, Mexique, Vietnam et Québec, évidemment, de donner la parole aux personnes migrantes et immigrantes.
Ouais.
J'ai contacté le CANA, j'ai contacté le SICA. Ces gens-là travaillent énormément. Ouais. Et ce qu'ils me disent, c'est difficile de mobiliser les personnes des différentes ethnies, quelles qu'elles soient.
Okay. Donc, vous trouvez que c'est un défi supplémentaire?
Ah, c'est un gros défi. Et pour moi, c'était l'objectif des légendes, du spectacle du 11 mars.
Ben voilà, on en parle déjà. peut-être qu'on pourrait... vous voulez ajouter quelque chose, puisque le 11 mars prochain sera présenté. C'est quoi le titre de votre spectacle?
Légendes du monde.
Légendes du monde, tout simplement.
J'ai choisi les pays dont je viens de vous parler parce que ces ethnies-là sont représentées dans la troupe. Depuis deux jours, j'ai eu le plaisir d'entendre deux personnes qui m'ont appelé pour être bénévoles le soir du 11 mars, parce qu'il va y avoir des dégustations entre chaque légende. Ce sont des jeunes de 16 ans, secondaire, cégep, qui sont d'ethnies différentes. Entre autres, il y a un jeune homme d'origine ouzbek. Alors je me dis, au fond, parce que c'est vivre ensemble, vraiment, que je vise dans un tel spectacle. Et là, d'avoir quelques jeunes d'ethnies différentes qui vont être au spectacle, moi j'aurais voulu toucher leurs parents.
Ouais.
Mais comme par hasard, c'est les jeunes qui contactent la troupe.
Ah oui.
Et je trouve ça encore...
Donc c'est leurs amis qui
c'est
viennent.
C'est formidable, oui, parce que c'est avec les jeunes, c'est avec les parents, mais si les parents ont d'autres préoccupations, si les jeunes commencent à venir... Ça va être formidable parce qu'il faut travailler avec eux.
Donc, il y a plusieurs objectifs à votre entreprise. Vous voulez aussi que les personnes issues des communautés culturelles, par exemple, fréquentent le théâtre, viennent à la rencontre de votre projet.
Voilà.
J'aimerais qu'on en parle. Donc, Légendes du monde, Olivier.
Oui.
Ce spectacle-là, donc, tu t'impliques, tu es comédien.
Oui, je suis impliqué là-dedans, oui.
OK.
Comme comédien.
Oui, puis qu'est-ce que tu apprécies de cette pièce-là?
J'apprécie les gens, comment ils performent leur personnage, comment ils se positionnent, puis vraiment, c'est impressionnant. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est... moi, j'ai vu la pièce de théâtre de Yolande, Montréal, Est-Ouest, à Notre-Dame-de-la-Merci, c'était une résidence de personnes âgées. Un soir, mes parents m'amènent au local où ils ont commencé et où ils font la pièce de théâtre Montréal Est-Ouest. Puis là, Yolande vient vers moi avec sa langue, avec son français. Elle me dit, Olivier, tu vas...
En fait, tu trouves qu'elle a une belle langue.
Oui, très bien. Elle a une belle voix.
Mais t'as une bonne diction aussi, t'as une bonne voix, on sent que t'as fait du théâtre.
Puis là, elle venait vers moi et elle me dit, « Tu vas jouer un malfrat. » J'ai dit, « Quoi? Un malfrat? Tu vas jouer un bum? Ah, OK! » Puis croyez-moi, là, quand on a fait cette pièce-là, j'ai été vraiment impressionné par mon personnage, les autres personnages aussi.
T'as aimé jouer un bum?
Oui, absolument.
On dit malfrat.
J'avais choisi cette pièce-là parce que quand je les entendais le soir, pendant qu'ils soupaient, avant de commencer la répétition, il y avait de la peur parmi ceux qui habitaient dans Montréal-Nord par rapport aux gangs de rue. Alors moi, ça a été pour parler des gangs de rue, parler de la solidarité éventuelle qui pouvait sauver quelques-uns.
Ouais.
Et ça a brisé la peur.
Et ah oui, vous avez constaté c'est ça
le but.
Comme
oui,
fait de votre
ben
travail.
Oui, c'est le but, finalement. C'est un début de la troupe. La troupe est engagée, donc je choisis toujours des thèmes sociaux. Mais là, j'aimerais peut-être que, comme M. Rasset posait la question, que tu parles plus, finalement, du genre de rôle que vous avez. Quel rôle tu fais, toi, dans les légendes?
Mais ça, c'est certain. Je dois d'abord vous le dire brièvement. Cette entrevue va se terminer. J'aimerais beaucoup, en une petite minute, Olivier, tu nous dises qu'est-ce qu'on va voir le 11 mars prochain?
Le 11 mars, on va voir quatre légendes. Une légende italienne, mexicaine, vietnamienne et haïtienne.
Et aussi
et québécoise. Oui, québécoise. Moi, je joue une personne de villageois. C'est quatre histoires de villages qui ont... comme un, je vais vous le dire, un Mexicain, c'est l'histoire d'un dieu qui regarde son village qui est décimé par la famine et par la pauvreté de son village. Puis là, un jour, il se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour...
Mais attendez, donc il veut faire quelque chose pour changer... la situation de son village. Et c'est un peu ce que vous essayez de faire à la troupe.
C'est ça,
non seulement vous essayez de faire du théâtre, mais vous voulez changer les choses. Donc, on retrouve le 11 mars prochain les légendes du monde. Et pour avoir de l'information, c'est quoi le site web?
Mais je vais donner l'adresse.
Non, le site web
troupe à tout cœur.
Oui.
À tous écrivant A-T-O-U-T.
OK.
www.weebly.com. Ah, ça, c'est
www.weebly.com. On va le retrouver de toute façon sur notre site web.
On a Facebook
et
aussi.
Facebook est possible de vous retrouver. Alors, je vous remercie infiniment
d'avoir
été avec nous, Madame Lemestre, Olivier. Donc, le 11 mars, on peut aller le voir. Merci à vous. Donc, à l'émission, on a pu compter sur Walter Zelaya, Franck Bouchard et aussi Maxime Despomerleau, qui est dès ce vendredi en train de nous parler de culture. Merci à toute l'équipe d'avoir fait Accès libre. Et n'oublions pas, quelque part, jusqu'à la semaine prochaine, on va réussir à faire un véritable accès libre.